Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Alors que la France enregistre ces derniers jours un léger mieux sur le front de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement étudierait d'éventuels assouplissements au confinement. Un conseil de défense se tient ce matin à l'Élysée.
Toujours lié à cette crise sanitaire, une étude vient témoigner des risques psychosociaux.
Et en l'occurrence, une augmentation manifeste de la détresse psychologique des salariés.
Si de tout temps, Thomas, certaines bactéries ont muté et développé des résistances, le phénomène semble s'accélérer dangereusement depuis une vingtaine d'années.
Oui, au point que la résistance aux antibiotiques serait responsable aujourd'hui de 700 000 morts par an dans le monde et au moins 5 500 rien qu'en France.
Jusqu'où peut aller la capacité de nuisance d'un président battu dans les urnes et qui s'accroche au pouvoir ?
Hier, Donald Trump aura successivement limogé le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections, mais aussi annoncé le retrait pour moitié du nombre de soldats américains stationnés en Afghanistan et en Irak d'ici à la mi-janvier. Invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon, Assas, spécialiste des États-Unis. Puis nous irons également à Jérusalem, où quelques heures avant la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour sa tournée d'adieu à l'État hébreu, l'armée israélienne a mené ce matin une série de frappes aériennes contre des cibles iraniennes en Syrie. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Si vous pensez que les ruines sont des vestiges d'un temps passé et révolu, eh bien vous êtes loin de tout savoir sur ces ruines dont nous parlera dans une vingtaine de minutes l'anthropologue et historien Alain Schnapp, qui signe au Seuil une vaste et belle histoire universelle des ruines des origines aux Lumières.
Il n'y a pas de baguette magique. Voici donc, résumé d'une phrase, comment Jean Castex, dernier responsable à être auditionné par la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur la gestion de la crise sanitaire, aura longuement défendu hier soir la politique du gouvernement. 3 heures durant, graphiques et courbes à l'appui, l'actuel Premier ministre et ancien monsieur déconfinement se sera fait l'avocat de sa propre cause, récusant toute impréparation de la deuxième vague, tout en arguant que l'accélération pandémique avait pris tout le monde de revers. Enfin, malgré un léger mieux sur le front épidémique ces derniers jours et à la veille d'un nouveau conseil de défense organisé ce matin à l'Élysée, le Premier ministre s'est montré prudent quant à une éventuelle réouverture des commerces dits non essentiels. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Des mesures de restriction perdureront, a notamment lancé hier soir Jean Castex, manière de préparer sans doute les esprits à une sortie très progressive de l'actuel confinement. Le chef de l'État lui-même devrait d'ailleurs s'exprimer la semaine prochaine pour évoquer justement les étapes des prochains mois ou quand l'exécutif, au fond, Pierre, se retrouve à devoir dessiner l'après dans le jour sans fin de la crise sanitaire.
Oui, il faut en avoir conscience, ce déconfinement attendu pour la fin novembre, début décembre ne sera pas celui du mois de mai. Le scénario sur lequel travaille l'Élysée est celui d'un déconfinement très progressif. La semaine prochaine, Emmanuel Macron devrait d'abord appeler une série de restrictions et de recommandations, gestes barrières, port du masque, attestation de déplacement, recours au télétravail. Une piste est à l'étude pour sortir du confinement, celle d'un couvre-feu pour ne pas pénaliser l'activité économique, ce qui rendra alors possible l'ouverture des petits commerces en fin de semaine prochaine ou le 1er décembre. On sait que Bercy fait pression pour la date du vendredi 27 novembre pour que les commerces soient ouverts pour la journée dite du Black Friday. Quoi qu'il en soit, un protocole sanitaire renforcé sera exigé dans tous les commerces. En revanche, à ce stade, il n'y a pas d'espoir de réouverture pour les bars et les restaurants. Emmanuel Macron devrait aussi annoncer une reprise des cérémonies religieuses début décembre. Cela coïncidera alors avec le temps de l'Avent pour les catholiques. Reste la question des fêtes de fin d'année et des déplacements familiaux. Le chef de l'État pourrait annoncer une dérogation au couvre-feu dans un temps limité, le temps des vacances seulement. Mais Emmanuel Macron devrait surtout donner une perspective dans cette crise qui s'installe dans la durée jusqu'à l'été prochain, nous a dit Jean Castex hier soir. Cette perspective, c'est celle d'une amélioration de la situation sanitaire sur le long terme et surtout de la vaccination. Depuis que les laboratoires ont annoncé la prochaine mise sur le marché de vaccins, le chef de l'État devrait préciser la stratégie du gouvernement en la matière. On le voit, on est loin du retour annoncé des jours heureux, mais il y a un espoir.
Merci Pierre Neveu. Et tandis que de nombreux secteurs risquent de subir encore longtemps donc les conséquences de la crise, voilà que le ministre de l'économie s'est lui réjoui hier de ce que ce confinement fonctionnerait beaucoup mieux que le premier sur le plan économique. Alors cette déclaration faisait écho en réalité à une note publiée le même jour par l'INSEE dans laquelle on apprend que d'un confinement à l'autre, les Français ont adopté de nouvelles habitudes grâce par exemple aux ventes en ligne ou à emporter, de sorte que cela se traduirait aujourd'hui par un recul de la consommation moins brutal qu'au printemps. Quant au curseur de la récession, il oscillerait entre moins 9 et moins 10%, un chiffre légèrement plus optimiste que celui de moins 11% retenu par Bercy. De quoi laisser, on l'imagine, pour le moins sceptique. En revanche, tous les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture ou du sport, très lourdement affectés. Si le ministre n'a pas débouché leur horizon hier en évoquant une date de réouverture, il a toutefois assuré que le gouvernement prolongerait son soutien et même que de nouveaux moyens détaillés ultérieurement pourraient être intégrés à la loi de finances pour 2021. Et que dire à présent des conséquences de cette crise sanitaire, toujours sur la souffrance psychique, cette fois-ci la peur de la maladie, mais pas seulement. Les conditions de vie au travail bouleversées en cette période ont également des conséquences sur la santé mentale des Français, en l'occurrence Anne-Laure Jumet. Une étude réalisée juste avant le deuxième confinement vient illustrer une augmentation de la détresse psychologique des salariés.
La santé mentale des salariés se dégrade en effet. Près d'un sur deux est en détresse psychologique, soit une hausse de 7 points par rapport à mai dernier, un épuisement mesuré par ce cabinet sur la base d'enquêtes scientifiques, explique-t-il. Un tiers des salariés est même en état d'épuisement émotionnel sévère et 5% sont en burn-out, une maladie qui touche d'ailleurs encore plus les managers. Anxiété, stress, perte de sens, expliquent ces statistiques. La crise a été pour certains un déclencheur. Mon travail est inutile, disent 35% des sondés. Et le télétravail est porteur de nouveaux risques psychosociaux. Isolement, surcharge, sentiment d'être surveillé en permanence. Les entreprises n'ont pas pris la mesure de ce mal-être, explique Christophe Nguyen, président du cabinet Empreinte Humaine et psychologue du travail.
On fait comme si cette crise était passée et que les exigences, la charge de travail augmente, on va dire, de façon significative, sans prendre en compte le passif et l'historique et l'état psychologique des personnes. Donc beaucoup de salariés nous disent que c'est comme si l'état de fatigue n'était pas pris en compte.
Et il ne suffit pas de mettre en place un numéro vert pour régler tous les problèmes, explique-t-il. Référence à celui mis en place par le gouvernement pour écouter ceux qui sont en télétravail. L'entreprise doit former ses managers. Il y aura en tout cas à l'avenir, prédit Christophe Nguyen, une demande des salariés de réorganiser leur vie dans le sens d'un équilibre plus marqué entre vie professionnelle et vie privée, assorti d'une demande de bienveillance de la part de son entreprise.
C'est un véritable fléau, un de plus, serait-on tenté d'ajouter, la résistance aux antibiotiques, ou dit autrement, la capacité pour les bactéries de muter pour se défendre contre les médicaments. Au point d'ailleurs que cette année, la journée européenne d'information sur les antibiotiques a justement pris pour thème cette fameuse résistance qui tue pas moins de 700 000 personnes dans le monde chaque année, dont un peu plus de 5 500 en France. Et pour y faire face, eh bien, l'une des parades consiste aujourd'hui à inventer de nouvelles classes d'antibiotiques. Or, c'est très précisément ce qu'est en train de réussir à Rennes l'équipe du professeur Brice Felden. C'est un reportage signé Tara Schlegel.
Le laboratoire Inserm Université Rennes 1, que pilote Brice Felden, travaille depuis un moment sur l'ARN chez les bactéries. Et les chercheurs ont découvert qu'une toxine fabriquée par les staphylocoques dorés qu'ils étudient était capable d'éliminer d'autres bactéries. Brice Felden.
Tout a commencé il y a une dizaine d'années où on s'est rendu compte que celui-là, cet ARN-là, il produisait un petit peptide. Alors un petit peptide, c'est quoi ? C'est un enchaînement d'acides aminés qui va avoir une fonction. Donc on a eu l'idée, tiens, elle tue d'autres bactéries avec son peptide, eh ben on va essayer de le transformer pour en faire un nouvel antibiotique. Donc ça a créé une nouvelle classe, une nouvelle famille d'antibiotiques. Parce que vous savez, les antibiotiques actuellement, il y a très peu de nouvelles molécules. On tourne toujours autour des mêmes.
Pour l'instant, avec ces nouveaux antibiotiques, pas de résistance observée chez les animaux. Car les chimistes associés au laboratoire ont réussi à fabriquer, à synthétiser des petits peptides semblables à ceux de la bactérie staphylocoque dorée qui sont capables d'éliminer, comme dans la nature, d'autres bactéries rivales. Les essais ont donc commencé pour certaines maladies.
Des septicémies, quand on a une infection dans le sang, très sévère, ou alors des infections de la peau, parce que le staph doré peut provoquer des furoncles. Donc on fait des infections de la peau chez la souris et on injecte nos peptides après. Et puis on se rend compte que les souris, elles meurent moins, elles sont sauvées, les abcès sont plus petits. Donc ça, on était très contents.
L'équipe a déjà publié plusieurs articles, s'est associée à une start-up tout récemment créée et espère, d'ici la fin de l'année prochaine, tester ces nouveaux antibiotiques sur les premiers humains.
Il devait en créer la majorité dans le tournant régalien voulu par le chef de l'État, mais pour l'heure, force est de constater que la proposition de loi sur la sécurité globale aura surtout semé la discorde à l'Assemblée nationale, y compris entre partenaires de la majorité, voire au sein même de La République En Marche. Rappelons que la disposition la plus polémique prévoit de pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Hier soir, plusieurs milliers de manifestants se sont également rassemblés dans plusieurs villes du pays. Et ce, en dépit donc du confinement à Paris, la police a procédé à 33 interpellations. Le gouvernement a mis la dernière main à son projet de loi destiné à lutter contre l'islam radical et les séparatismes. Celui-ci sera présenté le 9 décembre prochain au Conseil des ministres. Notons que le texte finalisé ne reprend pas en revanche le terme de séparatisme, pourtant employé par le chef de l'État lors de son discours au Mureau le mois dernier, pas plus d'ailleurs que celui de laïcité. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Sobrement intitulé projet de loi confortant les principes républicains, ce texte, Anne, comprend en revanche deux nouvelles infractions, lesquelles ?
Oui, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont détaillé ses principales dispositions dans le journal Le Figaro, un texte qui devrait créer, via ses articles 25 et 26, un délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée ou professionnelle d'une personne. Il s'agit de judiciariser les appels à la haine en ligne pour éviter que ne se reproduise ce qu'a connu Samuel Paty, le professeur assassiné le 16 octobre dernier, un professeur dont l'identité est le lieu de travail avait été mis en pâture sur la toile à partir d'éléments faux et mensongers. Les ministres espèrent par ailleurs obtenir du Conseil d'État la possibilité de déférer en comparution immédiate les auteurs d'un tel délit. Et cette disposition sera renforcée par un autre article, le quatrième de ce texte, qui protégera mieux les agents du service public en sanctionnant les menaces, les violences et les actes d'intimidation pour des motifs communautaires et séparatistes. Voilà donc pour les dispositions directement inspirées de la tragédie de Conflans-Sainte-Honorine. Mais ce projet de loi de 54 articles entend également garantir la transparence des conditions de l'exercice du culte. La loi de 1905 sera modifiée en matière de financement des associations culturelles. Et puis dans le bloc éducatif, on peut citer la fin de la scolarisation à domicile pour tous les enfants dès 3 ans, sauf cas très exceptionnels évidemment et justifiés.
Merci Anne Fauquemberg.
France Culture, il est 12h42, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Bien décidé à rentrer dans les livres d'histoire, y compris par la plus petite porte, Donald Trump persiste 2 semaines après le scrutin dans son refus de reconnaître sa défaite. Alors, à ce titre, le limogeage hier du patron de l'agence gouvernementale en charge de la probité des élections et qui s'était attiré les foudres de la Maison-Blanche en contestant les accusations faites par le milliardaire de fraude à la présidentielle était attendu. Toujours est-il que cette disgrâce témoigne une fois de plus de la posture belliqueuse de celui qui, échouant à se faire réélire, contrairement à ses 3 prédécesseurs, a promis une véritable guérilla judiciaire. Et puis, autre décision notable qui laisse entendre que le président sortant entend bien ériger jusqu'au bout des obstacles à son successeur, Donald Trump a ordonné hier le retrait de 2500 soldats américains d'Irak et d'Afghanistan, soit la moitié des effectifs déployés dans les deux pays. Ce retrait, promis par l'actuel locataire de la Maison-Blanche, devra être bouclé au plus tard le 15 janvier, soit 5 jours avant l'investiture de Joe Biden. Une décision qui sème le trouble à Washington, jusque dans les rangs des républicains, mais plus encore qui inquiète les militaires américains, lesquels craignent de voir les groupes extrémistes se renforcer, comme en témoignent déjà d'ailleurs les premières réactions ce matin en Irak. Correspondance à Bagdad, signée Lucille Wasserman.
La réaction la plus rapide est venue du ciel à Bagdad. Au moins 7 missiles ont été lancés moins d'une heure après l'allocution américaine contre la zone verte où se trouve l'ambassade des États-Unis. Cette attaque vient rompre plus d'un mois de trêve décrétée par les factions pro-Iran en Irak qui réclament non pas la réduction des troupes dans le pays, mais leur retrait total. Une demande d'ailleurs appuyée et votée par le Parlement irakien en janvier dernier. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre irakien n'a pas souhaité commenter l'annonce américaine. Bagdad et Washington sont engagés depuis juin dans des discussions pour redéfinir leurs relations bilatérales, a-t-il dit. Ces discussions sont toujours en cours et la présence des troupes y est continuellement discutée, selon lui. Pour l'heure, le départ de 500 militaires américains semble davantage un effet d'annonce qu'un véritable tournant qui a davantage eu lieu au cours des mois précédents, lorsque 2000 militaires sont partis du territoire. Ce nouveau retrait rappelle toutefois aux partenaires des États-Unis engagés au sein de la coalition à quel point cette alliance est aujourd'hui fragile, et ce, au moins, jusqu'à ce que la Maison-Blanche ne change de locataire.
Et pour continuer d'évoquer cette politique de la terre brûlée poursuivie par Donald Trump, susceptible de provoquer donc des dégâts considérables, y compris sur la scène internationale, invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Éric Branat, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, spécialiste des États-Unis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comment analysez-vous cette obstination donc de Donald Trump à ne pas ménager ses efforts pour entraver au maximum le déploiement de l'administration Biden? Y a-t-il une véritable volonté de la part de Donald Trump de saboter la transition entre les deux équipes gouvernementales? Ou bien faut-il n'y voir au fond qu'une expression de plus de cette théâtralisation de la vie politique à laquelle Donald Trump nous aura habitués pendant 4 ans?
En effet, l'affaire est sérieuse, vous l'avez signalé, il faut quand même le souligner, le 20 janvier de cette année, Washington s'opposait à ce retrait en expliquant que c'était dangereux d'abord pour la sécurité nationale américaine et ensuite qu'il fallait renforcer l'alliance avec les Irakiens et que la présence américaine était requise. Alors cette volte-face aujourd'hui ne peut qu'inquiéter bien sûr à Washington, elle inquiète au Congrès, elle inquiète au Pentagone et l'analyse est assez simple en réalité, elle est dans la suite de l'annonce de Donald Trump qui dit non seulement qu'il réduit la présence des soldats au 15 janvier, mais qu'il les retirera totalement en mai, sachant bien sûr pertinemment que Joe Biden est le nouveau président élu et donc il ne sera pas là au mois de mai. En réalité, il fait de la politique, il est en train de parler une fois de plus à ses supporters qu'il considère comme des petits soldats qui sont en train de défendre son héritage actuel et préparer sa prochaine bagarre. Donc on peut penser qu'il est en train de nous préparer, nous aussi, à une annonce qui pourrait arriver très vite, comme quoi il serait candidat en 2024. Et donc, il sème des cailloux qui sont plus ou moins gros, plus ou moins embêtants pour Joe Biden, mais surtout qui permettent pour lui de rebondir. Et quand Joe Biden remettra les soldats en place, il dira, voyez, c'était une promesse que j'avais faite et je l'ai tenue. En réalité, Biden est un belliqueux et lui renvoie les soldats américains au front et le sang qui sera versé sera celui de nos jeunes boys qui n'ont rien à faire dans un pays aussi loin des terres américaines.
À quoi faut-il s'attendre encore? Qu'est-ce que Donald Trump peut faire jusqu'au 20 janvier, ne serait-ce qu'en termes purement légaux?
Alors, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire, d'abord sur le plan politique, et c'est vrai que le fantasme aujourd'hui amène à imaginer beaucoup de choses. On a vu dans la presse filtrer des hypothèses vraiment que moi je juge non crédibles, particulièrement sur l'Iran. Donald Trump va surtout essayer de gouverner par décret pour remplir ses dernières promesses, là encore, comme il l'a fait avec l'autorisation des forages dans l'Arctique, qui est une vraie provocation pour le coup, qui ne prendra pas non plus effet davantage. D'ailleurs, en 60 jours, quasiment rien de ce que Donald Trump ne pourra décider prendra effet, si ce n'est les grâces présidentielles qui, elles aussi, devraient tomber rapidement pour plusieurs de ses amis. Giuliani, en première ligne, qui est en train de le défendre contre vents et marées et contre toute logique et éthique, et qui devrait être récompensé, lui aussi, par une grâce qui toucherait notamment tous ses agissements avec l'Ukraine.
Alors parmi les idées justement avancées pour expliquer donc ce refus obstiné de Donald Trump d'accepter sa défaite, il y aurait l'idée que l'homme serait angoissé de perdre son immunité présidentielle et se faisant donc de faire l'objet de poursuites judiciaires. Est-ce que c'est une raison non pas valable mais plausible selon vous?
Alors, moi, je me détacherai un petit peu de cette raison-là pour une raison assez simple, c'est que le président américain n'a pas d'immunité pour ce qui concerne les actes privés. Il a une immunité pour ce qui concerne les actes concernant sa présidence. Et d'ailleurs, cet acte-là a été rappelé par la Cour suprême le 20 janvier dernier. Donc, actuellement, Donald Trump fait l'objet de poursuites, notamment à New York par le procureur Cyrus Vance. Et qu'il soit président ou qu'il ne soit pas président, les plaintes prospèrent contre lui, notamment pour ses les déclarations d'impôts ou d'autres affaires comme les agressions sexuelles dont il a pu être soupçonné avant même son mandat. Donc de ce côté-là, c'est une raison qui ne soutient pas l'analyse.
Est-ce que c'est une raison pour laquelle le scénario évoqué parfois d'une démission de Trump à l'instar de Nixon en 1974 pour obtenir le pardon présidentiel ne serait pas suffisant pour le protéger contre de futures actions en justice?
C'est vrai qu'on entend ça aussi. On entend également que Donald Trump pourrait s'autogracier. Et d'ailleurs, il y a un vrai vide juridique là-dessus, puisque la Constitution ne lui donne pas ce pouvoir, mais l'interdit pas non plus. Donc, s'il le faisait, il y aurait surtout une grande bataille judiciaire. Je crois qu'on va plutôt se tourner du côté de Joe Biden, qui lui a fait une déclaration très intéressante en disant que il ne voulait pas que son mandat soit pourri par des affaires de poursuites sans arrêt contre Donald Trump. Et qu'on ne parle que de ça. En réalité, le pardon présidentiel pourrait bien venir de Joe Biden, qui pourrait, dans un signe d'apaisement, décider que Donald Trump n'aurait aucune poursuite, justement, en tout cas sur le plan fédéral.
Une dernière question, Monsieur Brana, et en quelques mots, s'il vous plaît. Toute cette séquence à laquelle nous assistons ne serait évidemment pas possible si la transition entre l'équipe sortante et la nouvelle ne prenait pas autant de temps, 2 mois. Pourquoi une telle durée ?
Une telle durée parce que Donald Trump fait des recours et qu'il a décidé de ne pas reconnaître cette défaite qui est aujourd'hui évidente, mais en même temps, ça ne pourra pas durer éternellement. La Constitution donne des dates très précises. Le 8 décembre, tous les recours s'arrêtent et surtout le 14 décembre, le collège électoral va se réunir et va élire formellement le président des États-Unis. Le 14 au soir, il n'y aura plus aucun doute et Donald Trump sera bien obligé de reconnaître sa défaite.
Merci Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris de Panthéon, Assas, spécialiste des États-Unis, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, inutile de rappeler combien Donald Trump aura tout au long de son mandat mené une politique de pression maximale contre l'Iran, sauf qu'à présent, la perspective d'un possible rapprochement diplomatique entre Washington et Téhéran, voire d'un retour des États-Unis dans l'accord nucléaire international à la faveur de l'élection de Joe Biden, inquiète Israël. Et nul doute que cette appréhension grandissante sera au menu aujourd'hui de la visite du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte donc que l'armée israélienne a mené tôt ce matin des frappes aériennes de représailles contre des objectifs iraniens en Syrie, faisant au moins 10 morts. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Ce qui apparaît comme une évidence aujourd'hui, Frédéric, c'est qu'au fond, Trump ou Biden, peu importe, finalement, l'Iran reste toujours l'ennemi numéro un pour l'État hébreu.
Oui, c'est ça. Ces frappes, elles ne sont pas surprenantes, puisqu'hier, l'armée israélienne a découvert des engins explosifs déposés côté israélien à la frontière avec la Syrie, dans le plateau du Golan. L'armée affirme qu'ils ont été placés là par des Syriens, mais commandés par des Iraniens, qui sont parmi les principaux soutiens au régime de Bachar el-Assad. Les artificiers israéliens ont désamorcé les engins, mais cette nuit, donc, Thomas, peu après 4h du matin, des avions de chasse ont bombardé des hangars, des casernes et des batteries de missiles sol-air. Israël insiste sur le fait que les cibles appartiennent aux unités iraniennes d'élite Al-Quds et Israël tient le régime syrien pour responsable de toute action menée contre lui. L'Iran reste donc la préoccupation numéro un du gouvernement ici. Voilà pourquoi l'armée a communiqué sur ses frappes en détail et voilà pourquoi, sans aucun doute, Benjamin Netanyahou va en reparler lors de cette visite de Mike Pompeo qui doit atterrir à Tel Aviv dans une demi-heure environ. Donald Trump a mené une politique de sanctions et d'isolement très dure contre l'Iran. Il a sorti les États-Unis de l'accord sur le nucléaire signé par l'administration Obama-Biden. Joe Biden, le président élu, lui, va certainement rouvrir le dialogue avec Téhéran.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Pour terminer le journal, direction à présent les Pays-Bas. Là-bas, l'État avait annoncé cette fin juin une aide de 3,4 milliards d'euros à la compagnie aérienne KLM, laquelle subit de plein fouet le contre-coup de la pandémie, au point d'annoncer dès la mi-mars 1500 à 2000 suppressions d'emplois. Sauf que cette aide se retrouve contestée aujourd'hui par l'ONG Greenpeace, laquelle estime que cette contribution des autorités n'est pas assortie à suffisamment de mesures environnementale. Et c'est ainsi que l'ONG a donc intenté une action en justice contre l'aide de l'État néerlandais à KLM. L'audience au tribunal doit s'ouvrir cet après-midi. Précision depuis Bruxelles, signé Pierre Benazet.
Pour KLM, l'aide des Pays-Bas ne sera pas gratuite. Il y a d'un côté des exigences de rentabilité, avec par exemple une réduction de 15% des coûts de la compagnie aérienne. Il y a aussi des objectifs climatiques, avec une réduction par moitié des émissions de CO2. Mais selon la branche néerlandaise de Greenpeace, ceci n'est pas suffisant et n'est en fait qu'une remise au goût du jour d'engagement que la compagnie aérienne a déjà signé. L'ONG a donc exigé de l'État néerlandais qu'il assortisse son aide d'un plafond d'émissions de dioxyde de carbone qui devra être réduit chaque année. Et Greenpeace avait fixé au gouvernement batave un ultimatum au 1er octobre pour accéder à ses exigences et entamer des discussions, ce que le gouvernement n'a pas fait. Entre-temps, il faut bien le dire, la commissaire européenne chargée de la concurrence avait validé ce plan de 3,4 milliards d'euros en se félicitant de ce qu'il comprenait des mesures environnementales. Greenpeace a donc décidé de se pourvoir en justice et a assigné le gouvernement en référé pour que l'aide à KLM soit annulée, estimant que l'État ne satisfaisait pas à son devoir de protection. Cette notion de devoir de protection est majeure aux Pays-Bas, en particulier depuis que l'État a été condamné dans l'affaire Urgenda par la Cour suprême en 2019 à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25%.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert et pluvieux sur la Bretagne, ensoleillé partout ailleurs. Quant aux températures particulièrement douces, elles afficheront entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Et un studio d'écart et 12h56, c'est donc l'heure de vous retrouver, Olivia Gesbert, pour la grande table des idées.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on est ensemble avec mon invité qui est lui à distance aussi, Alain Schnapp, jusqu'à 13h30. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, les ruines. C'est sous ce titre que le photographe Joseph Koudelka a présenté ses photos en noir et blanc, rassemblées pendant plus de 30 ans, durant lesquelles il a sillonné des sites archéologiques du pourtour méditerranéen. Des vestiges, symboliquement aussi, racontés au cœur du dernier livre d'Hélène Sixou, « Ruines bien rangées chez Gallimard ». Des ruines, enfin et surtout, au cœur d'une somme érudite, d'un beau et grand livre, une histoire universelle des ruines qui paraît au seuil. Un livre signé de l'archéologue et historien Alain Schnapp, fondateur et ancien directeur de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Qu'est-ce qui rend la ruine universelle, se demande-t-il dans cet ouvrage. Penser les ruines, c'est aussi, et vous allez vite le comprendre, penser les hommes et les civilisations. C'est penser le présent, le passé d'abord, et l'avenir surtout, car, comme il l'écrit dans ce beau livre, qui entend éradiquer le passé et conduit à supprimer le futur. Car aussi, lutter pour la transmission des savoirs, c'est prévenir l'obsolescence des choses. Bonjour à vous Alain Schnapp.
Bonjour et merci de votre invitation.
Et merci à vous d'être à distance, mais avec nous, pour nous parler de ce travail qui est presque l'œuvre d'une vie. C'est une telle somme que vous nous présentez là. Cette question des ruines, elle vous a traversé, occupé, tout au long de votre parcours.
Oui, c'est comme archéologue, avec aussi des activités de terrain, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi cette attraction vers le passé, vers les objets ou les monuments qui subsistent ou qui brusquement nous interrogent parce qu'à un certain moment, on les regarde d'une façon différente. On ne les laisse pas en quelque sorte indiscriminés à la surface du sol. Et donc, c'est cette interrogation qui m'a mené d'abord à une réflexion sur les ruines dans le monde occidental, avec le rôle qu'elles ont joué dans la modernité. Et puis, je me suis posé la question, est-ce que cette curiosité était présente dans le monde ancien, dans les civilisations préhistoriques, dans les civilisations précolombiennes, dans le monde arabo-musulman, ou même dans le Moyen-Âge occidental. Et donc c'est de ce parcours que j'ai poursuivi pendant une quinzaine d'années, qu'est sorti ce livre.
Alors vous êtes quand même un peu plus que un homme parmi tous les hommes dont parle Chateaubriand dans Le génie du christianisme que vous citez en ouverture de cette histoire universelle des ruines. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. J'ai envie de vous demander tout simplement quand même, Alain Schnapp, c'est beau, une ruine ?
Oui, enfin, c'est surtout émouvant. Alors, la beauté de la ruine, elle vient de l'attraction qu'elles exercent chacun, sur chacun d'entre nous, en fonction, en quelque sorte, de nos expériences et de nos ruminations du passé. Ce qu'il y a de fantastique chez Chateaubriand, c'est qu'il a été vraiment un penseur universel des ruines. Lui, formé dans la tradition occidentale et revendiquant hautement son catholicisme, il est capable de comprendre les ruines des Indiens d'Amérique, il est capable de regarder les ruines islamiques. Il a poursuivi un travail herméneutique d'interprétation de ce qui l'entourait. Et comme c'était un homme de voyage, et on a du mal à imaginer ce qu'étaient les voyages en son temps, et de voir cet homme qui est allé de l'Asie aux Amériques, et qui chaque fois a porté ce regard à la fois désenchanté sur les civilisations du passé, extraordinairement curieux. Et je dois dire que quand je n'avais de Chateaubriand que les restes d'une éducation littéraire classique, mais le retrouvant, au moment où j'ai commencé à compulser tous les textes antiques qui m'étaient accessibles sur les ruines, sa façon de dominer le sujet m'a surpris et elle m'a fait prendre conscience de la modernité occidentale des ruines, qui s'oppose à un usage des ruines très différent dans les autres sociétés.
Et alors, de mémoire, Chateaubriand, il fait la distinction entre deux sortes de ruines, celles qui sont un ouvrage du temps et celles qui sont un ouvrage des hommes, les bonnes et les mauvaises ruines, si je devais résumer assez rapidement, entre ce petit côté qui n'a rien de désagréable parce que la nature reprend ses droits pour les premières et le côté dévastatrice des secondes. Et on pourrait faire entrer dans cette première catégorie, celle des ruines qui sont un ouvrage du temps, la première photographie qu'on voit apparaître quand on ouvre ce bel ouvrage, cette vue de encore au Cambodge, où la nature reprend ses droits sur l'enceinte de ce temple du XIIe siècle.
Absolument. C'est quand je suis tombé, les témoignages que nous avons sur les ruines, dans la sensibilité aux ruines dans le monde cambodgien, sont difficiles d'accès et rares. Mais nous pouvons observer les monuments. Et quand j'ai eu la chance de découvrir la vision de ce temple, je me suis dit qu'il exprimait le plus fortement possible la relation indissoluble entre la nature et les œuvres des hommes, entre la nature et la culture. Chateaubriand l'avait vraiment pressenti, et il l'avait prouvé probablement, cette définition des ruines, déjà chez Diderot, dans une méditation de Diderot qui est magnifique, qui est peut-être un poème en prose, le premier qui stabilise la définition des ruines. Parce que il y a une opposition certaine entre un Diderot un peu matérialiste, et qui n'est pas du tout marqué par le christianisme, et le catholicisme de Chateaubriand. Mais il se retrouve dans l'idée d'accepter que les ruines de la nature ne se confondent pas avec les ruines de l'activité humaine, même si elles se croisent, même si elles se rencontrent. Et donc, cet extraordinaire entablement des temples d'Angkor, en quelque sorte dévoré par la massivité de ces arbres, les fromagers qui les enserrent, c'est une image de ce que le plus grand théoricien des ruines de la modernité, l'allemand Georg Simmel, avait défini comme le retour de la culture à la nature. La ruine, pour lui, c'était l'extraction de ressources, de matières premières, du sol, qui permettait de fabriquer un monument. Et puis ce monument, ironiquement,